Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Est-ce la science, avec un grand S, l'une des sciences dures, qui affirme que l'empoisonnement est un crime de femme, car la dissimulation fait partie du génie féminin? La science n'est sans doute pas concernée par cette terrible affirmation, à moins que celle des statistiques peut-être, mais ce n'est pas une science dure. Et à cette assertion suit une autre formule choc dans l'émission que nous allons entendre. Quand c'est un homme qui empoisonne, il a la psychologie d'une femme et il s'agit souvent d'un homosexuel. Fin de citation. Pour autant, la Tribune de Paris qui suit ne manque pas d'intérêt. Elle qui regrette la fréquente non-détection des crimes d'empoisonnement, ce qui encourage les meurtres en série. Cette Tribune de Paris qui se demande si la presse ne parle pas trop des crimes ou au contraire si elle a raison d'alerter le public afin d'éviter les erreurs. Il faut éclairer le public, lui montrer la vérité toxicologique, mais ne pas s'interdire le doute. Tribune de Paris, première diffusion sur la chaîne parisienne, le 16 mars 1953.
Tribune de Paris, les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. La première manche de l'affaire Marie Bénard s'est terminée par la déroute des experts. La seconde manche se prépare. Marie Bénard, on le sait, est accusée d'avoir empoisonné une douzaine de personnes. Mari, parents, amis. Mais comment expliquer dans ce retentissant procès les incertitudes au moins apparentes de la toxicologie? C'est la question que nous posons ce soir. Autour du micro sont réunis Maître René Floriot, avocat à la Cour. Le docteur Michel Gauthier, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, le docteur Logre, médecin-chef honoraire de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police, et notre confrère Jean Arnaud, qui a présenté dans la revue Science et Vie une importante étude sur la toxicologie. Émile Dana va mener le débat.
À propos d'une grande affaire d'empoisonnement, une affaire que je n'ai pas besoin de nommer ici, l'opinion s'est demandée, non sans quelque émotion, s'il était possible d'empoisonner 12 ou 13 personnes sans que la science pût décider formellement si, oui ou non, et dans quel cas, des crimes ont été commis. D'autre part, devant cet amoncellement de cadavres, cadavres empoisonnés ou non, on s'est demandé si l'on n'assistait pas tout de même à une recrudescence des empoisonnements. Ces questions, messieurs, je voudrais bien que vous y répondiez. Maître René Floriot.
Je crois qu'il est difficile de répondre à cette première question. On ne publie pas de statistiques, vous vous en doutez. Et d'autre part, un très grand nombre d'empoisonnements demeurent impunis. Tant est si bien qu'il est impossible de dire si les empoisonnements jadis étaient plus ou moins fréquents que les empoisonnements actuels. Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que jadis, les difficultés que rencontraient les empoisonneurs étaient différentes de celles qu'ils rencontrent à l'heure actuelle. Jadis, il y a 200 ans, la grosse difficulté était de se procurer du poison. À l'heure actuelle, c'est infiniment facile. On vend partout des produits qui servent à tuer des insectes, à détruire des rats et qui constituent des poisons violents. Par contre, à l'heure actuelle, il est très facile pour la science, lorsqu'elle est alertée, de déceler un empoisonnement criminel, alors qu'il y a 200 ans, les empoisonneurs qui se contentaient d'une ou deux victimes étaient pratiquement assurés de l'impunité, et c'était seulement la récidive qui attirait l'attention sur eux, car à cette époque, la science était à peu près incapable d'établir avec certitude un empoisonnement criminel. Ce qui fait la difficulté, même à l'heure actuelle, c'est que la science n'est pas toujours alertée. Elle ne peut l'être, en effet, que lorsque le parquet ordonne l'autopsie du cadavre et le prélèvement des viscères. Or, le parquet ne le fait qu'à la condition d'avoir une plainte, ou parce que le permis d'inhumer a été refusé par le médecin traitant. Or, seul le médecin traitant peut attirer l'attention de la famille sur les symptômes douteux qu'il a constatés. Il le fait très rarement. Soit parce que son attention n'a pas été attirée, soit parce qu'il n'a pas pensé à l'empoisonnement criminel, soit parce que les symptômes qu'il constatait lui paraissaient trop fragiles pour refuser le permis d'inhumer. De sorte que l'autopsie n'étant pas ordonnée, l'empoisonnement criminel demeure impuni.
Docteur Gauthier,
il est exact que le médecin traitant, très souvent, ne pense pas d'emblée à une intoxication criminelle, d'autant plus que celle-ci est très rare, et c'est souvent que, au bout d'une certaine période de la maladie, que devant des troubles anormaux, il commence à s'inquiéter. Mais on comprend combien sa situation est difficile, car s'il possède des moyens de laboratoire extrêmement utiles pour l'aider au diagnostic, les conséquences d'un tel diagnostic sont extrêmement délicates, et en particulier, il ne faut pas oublier que le médecin traitant est lié par le secret professionnel, et il hésite, on comprend pourquoi, avant de faire de la publicité sur un empoisonnement possible, il hésite devant les conséquences que ça peut avoir sur l'entourage, et bien entendu, il est incapable de savoir quelles sont les personnes qui sont coupables. Et c'est pourquoi, lorsque le médecin traitant a un soupçon, il est conseillé de éloigner le malade de l'entourage, le mettre en observation clinique ou à l'hôpital, pour pouvoir faire les épreuves de laboratoire et l'écarter de l'entourage criminel possible.
Docteur Logre.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, le crime d'empoisonnement est un crime qui est essentiellement à base de ruse et qui par conséquent rend très difficile et les soupçons et les recherches. C'est lorsque, par exemple, on tire un coup de revolver et qu'on tue une personne, on connaît immédiatement et tout à la fois, d'une part le crime, d'autre part le criminel, et enfin la victime. Tandis que le crime d'empoisonnement s'accomplit dans l'ombre, sous le couvert du secret. On ne connaît même pas le méfait qui apparaît comme une maladie, et on connaît encore moins le criminel, qui très souvent d'ailleurs est considéré comme une personne excellente, d'une grande bonté, et qui a à la fois la sympathie et la confiance de toute la famille. Car le crime d'empoisonnement est un crime de femme. C'est un crime de femme dans une proportion extrêmement importante, puisque les femmes d'ordinaire n'entrent dans la proportion des crimes que pour deux sur dix. Tandis que dans le crime d'empoisonnement, la proportion des femmes est de 7 pour 10. Et il faut même ajouter que lorsque les crimes d'empoisonnement sont commis par des hommes, en étudiant la psychologie de ces hommes, on s'aperçoit qu'ils ont une mentalité féminine et qu'ils sont assez souvent des homosexuels. Pourquoi est-ce un crime de femme? Eh bien, non seulement à cause de l'élément ruse, mais parce que c'est un crime de ménagère, c'est un crime d'épouse et de bonne, de servante, de la femme qui prépare la cuisine, qui fait les tisanes, qui distribue les potions, qui est aux petits soins pour le malade. Et c'est aussi un crime de dissimulation, ce qui également est assez conforme au génie féminin. Cette dissimulation qui fait qu'on apporte aux malades les tisanes, les potions, avec un air de tendresse, de sollicitude, et qui fait qu'on apporte la dernière potion aux malades avec un aspect de pitié suprême.
De bouillon d'onzeur.
Monsieur Jean Arnaud.
Eh bien, c'est évident que la presse va s'intéresser à ce genre de crime. Chacun sait que la presse aime mettre du sang à la une. Ici, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang, mais comme le disait le docteur Logre à l'instant, il y a le mystère. Car il faut savoir s'il y a crime, il faut chercher le criminel et parfois même il faut chercher la victime. Et puis il y a les à-côtés psychologiques aussi qui viennent ajouter à ce roman policier qui est amusant à décrire et pittoresque pour la presse. Mais non seulement il y a ces à-côtés psychologiques, mais il y a maintenant les problèmes et les côtés scientifiques. Il vous est apparu sans doute que de plus en plus la presse, la grande presse, s'intéressait à tout ce qui touche la science et même la médecine. On entrait dans les détails. On l'a vu dans le cas du jeune Marius Renard. On a vu qu'on a donné des détails techniques sur la greffe du rein. Eh bien, ici, dans le cas des empoisonnements, on met maintenant en accusation la toxicologie. Les méthodes toxicologiques, cette science de toxicologie. A-t-on le droit de le faire? La presse a-t-elle le droit de jeter, pour reprendre le terme technique des avocats, ce que j'appellerais une suspicion non légitime sur une science, alors qu'on a le droit d'être sceptique à l'égard de certaines défaillances de procédure et de certaines erreurs humaines. Je crois qu'il y a un problème qui se pose ici. La toxicologie est mise en accusation. Comment peut-elle, comment doit-elle se défendre?
Mais non seulement la toxicologie, mais aussi les médecins, d'après Maître Floriot.
Non, je ne mets pas les médecins en accusation. J'indique simplement que très souvent, l'expérience le démontre, les médecins passent à côté d'empoisonnement criminel sans faire le diagnostic. Un exemple est très précis à mes mémoires, il remonte à 2 années. Dans le Nord, un homme avait empoisonné sa femme. Il a mis 6 mois pour y parvenir. Il lui faisait absorber de la morora à petite dose, et cette morora contenait un poison dénommé le thallium, qui a pour effet de faire disparaître les cheveux, les cils, les sourcils et les poils. Eh bien, pendant ces 6 mois, 11 médecins se sont succédés au chevet de cette malheureuse, ont constaté ces symptômes assez curieux et assez inhabituels, et aucun n'a pensé à faire le diagnostic. Le dernier n'a été consulté que la veille de la mort. C'était un médecin légiste. Lui n'a pas hésité, il a fait immédiatement le diagnostic empoisonnement par le thallium, mais trop tard, pour permettre de sauver la malheureuse. Je crains donc que dans un grand nombre de cas, surtout dans nos campagnes, des empoisonnements criminels demeurent impunis parce que le diagnostic n'a pas été fait.
Docteur Gauthier ?
Je crois que Maître Floriot a raison et que le cas doit être en effet pas si rare qu'on le pense, mais j'insiste sur le fait que c'est le caractère exceptionnel de ces empoisonnements qui empêche le médecin d'y penser, et puis aussi dans certains cas le fait que beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des malaises qui s'expliquent mal, ont tendance à incriminer un empoisonnement possible. Si bien que le médecin, très souvent, est obligé au contraire de rassurer des malades sous des empoisonnements imaginaires. Quoi qu'il en soit, il est évidemment regrettable que l'éducation médicale ne soit pas davantage orientée vers la recherche de ces empoisonnements criminels, qui encore une fois est vraiment exceptionnel et qui pourrait être reconnu par les laboratoires s'il y pensait.
Docteur Locke.
La non-détection des crimes d'empoisonnement est d'autant plus grave que les empoisonneuses ont une tendance très remarquable à commettre leurs crimes en série. On a connu le cas, par exemple, de la femme d'Anne Linden en Belgique qui avait empoisonné 102 personnes. Et l'on connaît aussi celui de Nanette Schönleben, qui, au moment d'être exécuté, au moment où on allait livrer sa tête à l'âge du bourreau, avait fait aux assistants une gracieuse révérence, dit-on, et s'était écrié « comme on fait bien de me supprimer, car je n'aurais jamais pu m'empêcher de continuer ». Si bien qu'il y a là une tendance à la répétition presque inéluctable des crimes qui fait que ces sujets doivent être reconnus le plus tôt possible, car si on ne reconnaît pas leur criminalité, elle se prolonge indéfiniment.
Mais la science est-elle en mesure, en ce moment, de déceler les empoisonnements, docteur Gauthier?
Je crois que la science est en mesure, actuellement, de déceler les empoisonnements, pourvu, naturellement, que l'attention s'est attirée sur la possibilité d'un tel cas d'empoisonnement. Je crois que les techniques actuelles toxicologiques sont très au point, et que l'on peut arriver à détecter des doses infimes de l'ordre du millième de milligramme des différents toxiques, aussi bien dans les déjections chez le sujet vivant que dans les viscères lorsqu'il s'agit d'un crime. Eh bien, ces techniques sont certainement très sûres. Malheureusement, leur interprétation peut être quelquefois délicate, car ce n'est pas parce qu'un toxique est trouvé chez un individu que l'on peut conclure que ce toxique a provoqué des troubles ou a provoqué la mort. Il y a donc là une question d'interprétation sur laquelle on peut discuter.
Maître Floriot ?
Eh bien, je crois que justement certains experts ont discrédité un peu la toxicologie parce qu'ils ont voulu à tout prix trouver des conséquences très précises, arriver à des conclusions tout à fait formelles, alors que les éléments dont ils disposaient ne permettaient pas d'arriver à des conclusions aussi nettes. C'est ainsi, par exemple, que certains experts toxicologues, en examinant les cheveux d'un cadavre, prétendent arriver à déterminer à une semaine ou 15 jours près la date à laquelle le toxique a été administré, notamment en matière d'arsenic. Alors qu'il semble bien établi que ce raisonnement est basé sur la longueur, sur la pousse du cheveu en un, qui pousserait d'un centimètre par mois, étant bien entendu que tout dépend des individus et que des calculs de ce genre sont tout de même des calculs très approximatifs. Je crois donc que si les experts se bornaient à indiquer les conséquences certaines et ne prononçaient des accusations que lorsqu'ils ont acquis une certitude totale, il n'y aurait pas de ces discussions comme celles que nous avons connues et qui, je le répète encore une fois, tentent à discréditer la toxicologie.
Docteur Gauthier ?
Je crois en effet qu'il faut tenir compte que des cas limites. Par exemple, l'absence totale d'un toxique peut permettre d'écarter l'hypothèse d'un lien entre ce toxique et la mort. De même, si l'on trouve des taux très élevés du toxique, on peut admettre que ce toxique est responsable de la mort. Mais lorsque l'on trouve des taux moyens, des doses faibles, comme c'était le cas par exemple pour l'affaire Lafarge, où Orfila a trouvé des taux d'arsenic très faibles, d'1/10 à 2 mg pour l'ensemble des viscères, on ne peut pas se servir de cette analyse pour affirmer que la mort était due à l'infection par l'arsenic.
Oui, mais enfin, la toxicologie a tout de même fait des progrès depuis la Brinvilliers et depuis Madame Lafarge, docteur Logue.
Je crois, et ce n'est pas mon collègue qui me démentira, que d'une façon générale, et on peut dire en règle générale, la toxicologie peut permettre de déceler les empoisonnements criminels. Et je crois qu'il serait très mauvais que, et tout à fait inexact, que les candidats à l'empoisonnement...
Empoisonneuses, à l'écoute.
Les empoisonneuses aperçoivent dans une espèce de halo d'espérance un avocat triomphant agitant des petits tubes devant un expert plus ou moins décontenancé et confondu.
Qu'avez-vous vu,
Monsieur Jean Arnaud ?
Eh bien, je voudrais faire, non pas une défense et illustration de la presse, mais tout de même la prémunir contre certaines accusations. Elle est trop souvent le bouc émissaire. On lui reproche précisément de trop parler des crimes, de faire la publicité du crime.
D'encourager presque les empoisonneuses.
Eh bien, c'est tout le contraire, je pense, qu'elle s'efforce de faire. Bien sûr, le public est impatient de savoir qui est le criminel et s'il y a un criminel. L'accusé est là, l'accusé est-il oui ou non coupable ? La presse doit souvent schématiser et s'efforcer de répondre à ces questions par oui ou par non. Mais elle aussi, elle s'efforce de donner toutes les informations, d'apporter les preuves, d'apporter les arguments qui sont mis en avant, d'éviter que des erreurs s'accréditent. Voilà son rôle. Je ne dis pas que ça soit facile pour elle de le faire. Je ne dis pas que toute la presse soit sérieuse et entièrement objective, mais dans l'ensemble, des journaux, depuis les quotidiens jusqu'aux revues, en passant par les hebdomadaires, il y a sûrement, de nos jours, un effort sérieux de la presse pour serrer de près les problèmes, pour éviter les abus, comme c'est traditionnel, les scandales, les injustices. Et c'est peut-être mon rôle, mais enfin, je défends cette presse. Je ne sais pas si M. Floriot sera d'accord.
À moi, je considère que la presse rendant compte des faits divers est souvent assez mal informée parce que, justement, les services de police refusent, dans certains cas, de lui communiquer des éléments qui pourraient l'éclairer davantage. Mais je considère qu'au cours du procès, la presse assistante au procès est, à mon avis, une chose excellente. C'est grâce à la présence de la presse que des abus peuvent être évités. Il faut que l'opinion publique sache exactement comment se déroulent les débats et lorsque des incidents se produisent, lorsque des abus sont signalés, lorsque des lacunes de l'information se font jour au cours du débat, il est bon que la presse en rende compte afin que le public sache comment la justice est rendue en France.
Oui, ce n'est pas le désir du scandale, c'est le désir d'objectivité et de justice.
C'est ça.
Docteur Locke.
Si bien que la conclusion est à mon avis la suivante, il faut que les journaux d'une part et les conversations à la radio comme celle-ci aient pour objectif d'éclairer le public en lui montrant d'une part la vérité, c'est-à-dire que la toxicologie peut fort bien dénoncer les crimes, et en faisant par conséquent la publicité de la vérité qui est de nature à empêcher autant qu'il est possible la récidive du crime.
Jean Arnaud, maître René Floriot, le professeur Michel Gauthier et le docteur Logre se sont entretenus des possibilités actuelles de la toxicologie. Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion française. Nous rappelons que les opinions émises à La Tribune de Paris engagent la seule responsabilité de ceux qui les expriment.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 16 mars 1953. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Avez-vous pensé au poison pour se débarrasser de ce garçon, pour envoyer dans les oignons cet insupportable petit con? Avez-vous donc quelques notions de chimie? Là est la question. Car pour une bonne potion, faudrait connaître les proportions. Pas empoisonneuse qui veut, non, vous préparerez à 11h pour lui un bon bouillon d'11h qu'il enverra brouter les fleurs par la racine pour son malheur. Pas éveillé de soupçons, choisissez bien votre poison. Les baies de ce simple buisson font merveille en extrême onction. N'est pas empoisonneuse qui veut. Ce sera insinué. Trois gouttes suffisent dans son thé pour l'envoyer en jet privé. Et vous serez enfin heureuse. Oui, vous serez enfin heureuse. Fouiner. Prenez soin de dissimuler. Plaider la passion et pleurer.